Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui oublie les films à la sortie. Salut Thierry.
Et où sont-ils?
Qui ça?
Bah les films.
J'avais oublié.
Je suis perdu, salut Thomas.
J'avais oublié ça, par contre je me souviens d'hier, je me souviens de l'époque où nous n'étions que deux. C'est pour ça que j'ai envie de faire comme hier, une émission à deux, une émission comme Yesterday, sur Yesterday. Quelle transition.
Ne vous inquiétez pas, je serai celui qui ne prononcera pas trop le R dans Yesterday.
On s'en fout. Yesterday, chanson des Beatles, mais aussi film sur les Beatles, sans les Beatles. Un film de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James et Ed Sheeran, dans le rôle d'Ed Sheeran. Jean-Philippe, souvenez-vous, c'était une comédie française où Fabrice Luchini, ultra méga fan de Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, se réveille un matin dans un monde où Johnny Hallyday n'a pas existé. Et il va tout faire pour retrouver Jean-Philippe Smet et faire de lui le Johnny Hallyday, la méga star. Ici, on est un peu dans le même concept. On est avec Jack, qui se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé. À la seule différence ici que c'est pas un bon samaritain, et au lieu de chercher les Beatles pour en faire un groupe de légende, après faut dire qu'il y a peut-être un peu plus de décalage d'années, hein. C'est un peu plus compliqué techniquement.
55 ans plus tard. Hein. Hein, si c'est contemporain, c'est donc 53 ans plus tard.
Bah, si Ed Sheeran joue son rôle, il y a des chances. Et donc il va repomper les chansons des Beatles et les chanter à son compte en se faisant passer pour l'auteur. Et donc il va connaître le succès et la gloire. Et peut-être plus, mais nous le saurons pendant le film. Est-ce que tu attends quelque chose de ce film, mon cher Thierry?
Je précisais un petit truc parce qu'on a parlé du coup de, pour ceux qui ont vu Jean-Philippe et compagnie. Jean-Philippe, je pense que ça a été le point de rire de beaucoup d'adolescents. Moi, quand c'est sorti, j'étais gamin, ça nous faisait pisser de rire. Moi, je l'avais acheté un DVD pour faire chier, enfin, pour un anniversaire, pour faire chier mes potes. En réalité, Jean-Philippe, c'est un bon film. C'est très douloureux à dire, mais c'est vraiment un bon film avec un Luchini qui est génial et le film est vraiment cool, quoi. Et ça fait limite presque apprécier Johnny. Parce que le mec est cool. Voilà, bref. Enfin, le mec était cool. Alors moi, oui, j'attends beaucoup de choses. Parce que déjà, c'est Danny Boyle qui réalise. Et Danny Boyle, bah, c'est un réalisateur juste génial. Donc c'est un mec hyper intéressant. C'est le mec qui est à la base de Petit Meurtre entre amis, de Trainspotting, de 127 heures. Pour les trucs très connus, il y a The Slumdog Millionaire. Dernièrement, il avait fait Steve Jobs, qui était un film cool. Voilà, j'aime beaucoup Danny Boyle. Après, il y a la façon... C'est-à-dire que la dernière chose qu'il a fait, c'était Trainspotting 2. Donc on se rend compte d'un truc, c'est que Danny Boyle, qui n'a pas un bon scénario entre les mains, il fera du très bon Danny Boyle, Trainspotting 2 avec une putain de mise en scène, mais si c'est nul, c'est nul. Mais après, il y a là, hein, qui est le... Qui a écrit le scénario? Et c'est Richard Curtis. Et Richard Curtis est, pour moi, probablement mon scénariste préféré. Voilà, un réalisateur fantastique aussi, qui a fait Love Actually, Good Morning England et Il était temps. Donc il sait écrire des personnages. En fait, Richard Curtis est un monstre d'écriture de personnages. Il a écrit Bean. Pour vous dire à quel point il sait créer des personnages qui ne parlent pas. Et voilà, c'est un gars qui est très 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 fort pour ça. Donc j'ai très envie de voir Danny Boyle et Richard Curtis collaborer. Voilà, visiblement c'est la première fois qu'ils le font. Donc très excité à cette idée-là. Même, je veux dire, tu m'aurais même pas dit de quoi parle le film ni ce que c'est. Tu m'aurais juste dit c'est un film réalisé par Danny Boyle, écrit par Richard Curtis. Je serais déjà dans la salle en train d'attendre.
D'ailleurs, tu es déjà dans la salle en train d'attendre. J'ai un bras de 20 mètres et je t'interroge depuis le café du cinéma. Alors moi, je sais pas trop à quoi m'attendre de ce film. Effectivement, Danny Boyle, c'est qui tout double?
Ouais, c'est plus souvent double. Ouais. Je veux dire, pour moi, vraiment, Trainspotting 2, le reste du temps, tu prends 28 jours plus tard, même que j'ai pas cité avant. Enfin, c'est souvent réussi.
J'avais eu le vent du pitch du film avant de savoir qui le réalisait et qui l'écrivait, donc j'étais un peu sur la réserve. Surtout le concept de un monde où les Beatles n'ont pas existé. Qu'est-ce qu'on fait de ce monde-là? Comment évoluer la musique? Ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Quand on revisite les musiques des Beatles, elles sont plus vraiment dans le même contexte. Lucy in the Sky with Diamonds de nos jours, je ne sais pas si ça peut marcher pareil et si même ça a le même sens du coup.
Dans la bande-annonce, ils partaient pas forcément vers les morceaux psychés, ils partaient vers les morceaux très très pop. Alors je sais pas s'ils vont amorcer aussi la période psychée, qui est quand même la période extrêmement intéressante, et s'ils veulent parler du groupe qui a influencé énormément de choses, c'est surtout par cette période-là. Donc, ce serait quand même bien de la montrer. Mais je ne sais pas surtout du tout vers quel répertoire ils vont partir. Les Beatles ont un répertoire qui est quand même assez dense au final, même si ça a duré que 10 ans.
Et d'ailleurs, sur le manque de sens, alors le film doit en avoir conscience, puisque dans la bande-annonce, ils reprennent Hey Jude, et qui veulent que Ed Sheeran ne connaît pas la chanson dans cet univers-là, veut changer en Hey Jude, ce qui change totalement le sens. Oublierons-nous ce film? Dénature-t-il les Beatles ou leur rend-il un hommage digne de ce nom? Me donnera-t-il envie d'aller écouter les Rolling Stones? Notre sous-marin jaune est garé en double fil, nous y allons. On se retrouve après la bande-annonce.
Allez, viens, on va dans le jardin de la pieuvre.
Yesterday, Ellie bought you a present. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
When did you write that?
I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles.
Who?
John, Paul, George and Ringo, the Beatles. No. Stop it.
Yesterday.
It's one of the greatest songs ever written.
Well, it's not Coldplay. It's not Fix You.
Do you genuinely not know who the Beatles are?
Genuinely.
Then I'm in a really, really, really complicated situation.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Sorry, I'm just listening to Jack's new song.
What's this one called?
Leave It Be.
Let It Be.
Well, rock on, Jack.
Oh, yeah, tell you something.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Thierry, tous nos doutes se sont-ils envolés à la sortie de Yesterday?
Non. Non, pas vraiment, non. C'est une dent de scie assez constante, ce film.
Ah, tu es mitigé sur Yesterday?
Je suis très mitigé sur Yesterday. Je trouve ça trop long, déjà, d'une part. En fait, je suis très mitigé parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture de ce film. Et en fait, moi, voilà... Je pense que, comme je disais dans l'intro, je suis fan de Richard Curtis. Et j'aime sa façon de filmer et j'aime sa façon de raconter des histoires. Et là, ça m'a énervé de voir une histoire écrite par Richard Curtis qui était racontée par quelqu'un d'autre et qui ne sait pas raconter ses histoires. Pour moi, Danny Boyle a fait un autre film, en fait. Il a fait un film qui est... Ça transpire le cinéma de partout parce que ce mec essaye 36 000 choses dans sa mise en scène. Donc ça, en soi, ça ne me pose pas de problème. Mais je trouve que le caractère très intimiste de ce que sait faire Richard Curtis, et ça se sent dans l'écriture de partout, sur les personnages de secondaire, sur les moments familiaux, sur les moments que lui a vraiment envie de raconter, je trouve qu'il sait pas le faire, en fait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un mix entre deux auteurs qui peuvent être sympas séparément, mais qui, ensemble, matchent pas. Tout en ayant quand même passé un moment sympa. Je trouve le pitch assez sympa, il y a des bonnes idées, on passe pas un mauvais moment, mais je pense clairement que tu pouvais l'amputer d'une trentaine de minutes, que ça aurait pas non plus impacté, ça aurait fait peut-être un film plus dynamique. Il y a plein de bonnes idées, on va en parler, on va développer, mais ouais, dans l'ensemble, c'est un film que je vais très vite avoir oublié, et je ferai des recommandations, je pense, pour qui veut voir un super film sur les Beatles.
Tu trouvais le film lent? Oui, le film fait ses deux heures, hein. Bien. Moi aussi, par moments, je trouve qu'il y a quelques longueurs. C'est vrai que j'ai regardé ma montre et pourtant, je suis très enthousiaste en sortant de ce film. Je me suis régalé. On parlait sur le scénar, donc c'est un univers où les Beatles ont disparu, mais il n'y a pas que les Beatles qui ont disparu. En fait, il y a eu une espèce de coupure d'électricité mondiale et en gros, il y a 2-3 personnes qui se souviennent du monde d'avant. Et sinon, il y a... Donc les Beatles ont disparu, mais beaucoup d'autres choses ont disparu. Par exemple... Les clopes ont disparu, par exemple.
Ouais, les clopes ont disparu. Cigarette est une ville française.
Voilà, donc il y a plusieurs termes qu'il va chercher, et donc sur Google, et comme ça n'existe plus, il va tomber sur quelque chose de différent et complètement à côté de la plaque.
Non, par contre, c'est marrant parce que vu que les Beatles ont disparu, Oasis aussi. Ça, c'est que justice.
Oui, et Oasis a disparu aussi. Alors, mais du coup, alors...
même sa réaction est quand même géniale quand le mec il fait ouais, bon, en même temps, logique quoi, parce que bon, ces mecs sont quand même les plus gros imposteurs qui existent.
Ouais, mais on se doute, comme il fait la recherche directement dans la foulée, on se doute que c'est parce que les Beatles n'ont pas existé. Mais dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui n'ont pas existé en même temps que les Beatles, on pourrait imaginer que c'est dû juste à l'effacement global, que ça aurait pu être random aussi. C'est pas impossible. Alors, on parle des acteurs, on parle de l'histoire, on parle... L'histoire ne varie pas beaucoup hein, de ce qu'on a raconté, donc il n'y a pas grand-chose de plus à rapporter. Si, il y a quand même une histoire d'amour avec l'ami d'enfance.
Et justement, c'est là-dessus qu'il y a un souci. Ouais. Enfin, pas dans le sens où cette histoire, je la trouve exceptionnelle. Et c'est justement pour ça, quand je dis qu'il y a deux films dans le film, ça en fait partie. Enfin, tu voulais partir sur autre chose ou d'abord ou...
Non, je t'en prie.
D'accord. Pour moi, Danny Boyle a envie de raconter un film sur le succès non mérité, sur le monde du showbiz en général. C'est pour ça d'ailleurs que dès l'instant qu'il peut faire un plan grandiloquent sur un mec sur une énorme scène, et c'est pour ça aussi qu'il, chose qu'il avait déjà fait sur Jobs et sur Trainspotting aussi, il fait des expérimentations sonores tout le temps. Dès qu'il peut exploiter un son de studio, un son de live, et c'est du régal pour les oreilles, hein. C'est fantastique tout ce travail-là. Mais Richard Curtis, et ça, bon, je dis ça en connaissance du bonhomme, hein, je pense du coup à Love Actually et Il était temps, et même à Good Morning England, il y a un romantisme qui se dégage de ce film qui est constant, fait du film de personnage, et Richard Curtis, qu'il a envie de raconter, c'est une petite comédie romantique sur un mec qui va s'égarer du droit chemin et revenir vers sa bien-aimée. Et c'est ça qu'il a envie de raconter. Et moi, c'est ça auquel j'ai cru pendant tout le film. Et le reste, j'ai trouvé ça assez fake. Mais d'un autre côté, c'est fake aussi. Donc ça colle, quoi.
Et bien justement, tu parles du showbiz, tu parles de la grosse machine à broyer marketing, et moi c'est peut-être le truc qui m'a le plus plu, parce que la petite histoire d'amour finalement, comme elle est presque prétexte à faire un film, à faire une comédie romantique, mais moi les passages que j'ai trouvé excellents, c'est dès que le manager débarque,
oui.
Je trouve que là ça y est, on arrive sur une autre dimension. Quoi.
Surtout qu'en plus de là on était dans un ventre mou, et ça donne un second souffle, et Kate McKinnon qui joue donc la manageuse, et donc du coup là,
merveilleuse.
Cette nana est toujours fantastique, et c'est le SNL, pur jus, et ce qui est marrant c'est que cette nana, elle a le syndrome Willem Dafoe. C'était Karim Debache qui disait ça, qui disait « Dès que ce mec surjoue un minimum, on sait que ça va être une enflure. » Pareil, elle arrive, elle te fait un sourire, tu vois qu'elle l'exagère bien, tu fais « Ok, toi tu vas être une garce, pas possible. » Et du coup, elle se régale à jouer ça, quoi. Jusqu'à même des extrêmes dans ses paroles où je ne dis rien parce qu'il y a un passage où on s'est regardé « Oh putain, quand même. »
Alors, en gros, c'est un manager sans filtre. Ouais. C'est-à-dire que autant un manager d'habitude, il va essayer de t'enfumer, de te faire miroiter des trucs, autant elle, elle est cash plein pot, elle te dit d'entrer. Alors bon, là, tu vois, la villa, je me la suis payée avec ton pognon. On va faire des disques, je vais garder la plus grosse part.
Ou alors, elle regarde sa meuf, elle lui fait « Ah oui, non, mais lui, tu sais, c'est un produit hein, pour moi. » Mais comme ça, mais de toute façon, depuis le début, c'est vrai que dès qu'elle lui dit, elle lui fait « Tu vas là et on va se faire une tonne de fric ensemble. » Parce que moi, je m'en fous royalement de ce que tu fais, quoi. A priori, tu marches. Par contre, ton look, on va le changer, hein, parce que là, ça convient pas.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir justement un mec qui, d'un côté, pour lui, les Beatles, c'est le patrimoine. C'est presque religieux dans un monde où tout le monde s'en fout. Alors, on parle du marketing qui passe le White Album à la machine à communiquer. C'est-à-dire le White Album, ben non, c'est clivant, y a du racisme aujourd'hui. Donc non, on ne peut pas faire le White Album aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on va le changer. Rien que ça, quoi. Quand le mec il arrive au truc du marketing, il y a 100 personnes dans la salle.
100 personnes qui veulent juste se regarder entre elles devant le miroir et se palucher en se regardant dans les yeux. Hein. Oh, regardez comme on est bon, regardez comme on est merveilleux, regardez c'est nous, oh là là, qu'est-ce qu'on s'aime.
Tout ça pour présenter la jaquette du disque.
C'est ça. Et ouais, non, c'est clair, c'est clair. De toute façon, c'est que des ayants comme. En tout cas, c'est vrai qu'on rentre dans un monde qui est très fake, qui de toute façon est le milieu de la musique actuelle. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de. Là-dessus, il n'y a malheureusement pas de surprise, quoi. À part dans des milieux un peu underground ou là où il y a des publics de niche. C'est fini, la musique n'existe plus telle qu'on la connaissait avant.
Et donc je voulais continuer donc, sur le décalage avec ce côté, ben, la musique, donc outre le marketing qui n'a rien à foutre de cette musique-là, mais lui pour lui c'est culturel, donc c'est important. Et quand il va présenter son morceau pour la première fois, quand il va chanter Let It Be devant ses parents, c'est à mourir de rien, parce qu'il se fait, il n'arrive pas à la chanter parce que personne n'a rien à branler.
Alors si, en partie parce que ses parents l'ont toujours, enfin c'est pas la première fois qu'il leur présente des compositions et ses parents l'ont jamais trouvé qu'il avait du talent, quoi. Donc du coup ils sont là en mode ah ça y est génial, il va encore nous montrer un morceau, de toute façon il l'aura oublié dans deux semaines, il passera à autre chose.
Mais c'est surtout qu'il lui demande de le jouer et dès qu'il commence à jouer il y a un truc qui vient l'interrompre.
Oui, non voilà, mais c'est surtout leur indifférence qu'il interrompt tout le temps, quoi.
Mais et oui, ils en ont rien à branler, c'est-à-dire que ouais non c'est bon, tu nous as fait l'intro trois fois, passe à autre chose, c'est bon, quoi.
Et ça c'est pareil, tu vois, ce que je te disais, c'est que ça intervient tout le temps et pourtant c'est jamais lourd. Et ça pour moi, c'est ce que je disais, c'est l'écriture de Richard Curtis avec tous ces personnages secondaires que tu retiens mais constamment, et c'est assez fou. Il y a toujours de la bienveillance dans ces personnages. Il y a Gavin, donc du coup qui est le mec qui va leur prêter un studio au tout début, alors que parce que le mec est juste fan de ce qu'il fait, en mode viens on va enregistrer un truc, je suis pote avec toi, quoi, qui va devenir un peu son rival amoureux et compagnie, et qui le gars quand il voit l'évidence sourit presque en mode oh c'est normal. Et ça voilà, justement c'est ces personnages secondaires qui se mettent à l'évidence, quoi, et qui sont tous très bienveillants. Et même au final, il y a le père est un peu lourd et compagnie, mais c'est jamais de la lourdeur où tu te dis ouais bon c'est bon, on a compris que t'étais le comic relief. Non, tout est toujours, c'est très drôle, c'est très anglais, c'est très très british, et c'est pour ça. Mais moi ça je l'ai vu que dans les moments très intimistes. Après du coup c'est peut-être aussi Tony Boy, il est très anglais aussi, c'est peut-être aussi un pied de nez, cette espèce d'intimiste anglais très mignon où on est dans un petit monde de bisounours et avec la vulgarité à l'américaine qui vient débarquer en mode « Nous on est là pour le pognon !» Donc oui, en soi, ça reste logique que ça se passe comme ça, mais bon, ça m'a un peu égaré, quoi.
« In the name of money, stop !»
Je voulais pas le dire, hein. C'est « In the name of money
!» Ça fait encore un film où on va reprendre un patrimoine musical et on va le réinterpréter, le rechanter. Je pense à Rocketman récemment, par exemple. Ici, La musique, c'est quand même super important quand on parle des Beatles. Un petit mot là-dessus ?
Le choix des morceaux sont des morceaux trop simples. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pour ça que je vais parler d'un autre film après, c'est que quand je vais voir un film pour les Beatles, si je ne connais pas, on va me faire découvrir. Et si c'est juste pour me faire écouter les morceaux qui sont déjà sur le best-of, parce que là, clairement, dans le choix des morceaux, c'est cela. C'est limite dommage, il y a The Long and Winding Road qui est un peu moins connu, mais quand même, ça reste des morceaux très connus. On va en terrain connu. C'est un film des fans, fait par un fan des Beatles, très sincèrement, pour des fans de Beatles. Et ça, moi, ça me déçoit un petit peu.
C'est complètement justifié par le scénario. C'est un mec, comme les Beatles ont disparu, ben leurs chansons ont disparu aussi. Et donc, quand il va les réécrire, c'est uniquement de mémoire. Donc, c'est totalement logique qu'il ne se souvienne que des plus connus. Et d'ailleurs, il galère parce qu'il y en a qui l'inversent. Il inverse les paroles, les couplets.
Aussi fan des Beatles que ça.
Non, le mec, il est chanteur. Le mec n'est pas le plus grand fan des Beatles.
C'est tout à fait logique dans le scénario, hein, je dis bien. Mais c'est pour ça que je te disais, moi, j'y... Voilà, après, moi j'étais content, ça a flatté mon petit ego de fan des Beatles, mais ça m'a laissé quand même assez indifférent au final à cause de ça. Déjà parce que voilà, il y avait beaucoup de longueur qui fait qu'au moment je me disais, un morceau que j'aime beaucoup, je vais le chantonner, c'est cool. Mais ça m'a pas apporté cet impact, et surtout, on est face à un personnage qui ne sait jamais pourquoi ces morceaux étaient écrits. En même temps, oui, c'est pour ça qu'il va d'ailleurs à Liverpool à un moment, d'ailleurs Liverpool où ils ont joué là-bas en effaçant numériquement tous les symboles qu'il pouvait y avoir des Beatles. Donc c'est super cool des fois d'avoir fait cette démarche, d'aller tourner dans la ville et d'avoir trouvé des astuces pour justement faire en sorte que ça n'existe pas, quoi. C'est plutôt cool.
D'ailleurs, c'est marrant de voir Abbey Road avec des panneaux de travaux partout. C'est dégueulasse.
Oui, c'est clair, ça ressemble pas à ça. De toute façon, ça ressemble plus à grand chose Abbey Road maintenant, mais c'est vrai qu'après...
Attendez, c'est juste une route de campagne avec un passage clouté, on s'en fout. Changez-moi ça, quoi.
On est face à un personnage qui ne sait jamais donc du coup pourquoi les morceaux sont écrits, ce qui est logique. Mais du coup, il ne trouve pas des significations même particulières. Et même il a deux morceaux, il a ce morceau et il a un autre truc là. Et à la grande limite, j'aurais aimé que quand il essaye d'imposer ce morceau dans son album, il essaie de le faire à un moment, on lui dit non, il passe l'éponge, il explique pourquoi. Il donne ce morceau je l'ai écrit pour ça, il y a aussi de la sincérité dans les morceaux. Et ce qui aurait au moins donné un impact quand on dit les morceaux des Beatles ils sont aussi importants parce qu'ils ont eu un but, parce qu'ils ont eu une importance. C'est normal que ce mec là les sape pas vu que c'est pas lui qui les a composés, donc le côté je sais pas trop pourquoi je le fais parce que je m'en souviens, ça passe très bien. Mais ça a pas cet impact là que j'aime ressentir quand on parle de musique que j'aime bien, ça c'est mon petit côté fan de musique.
D'ailleurs sur la signification de tant qu'on y est, il mélange un peu toutes les périodes, quoi. Il prend le best-of, il les met et... du coup, quand il sort un album qu'il veut l'appeler le White Album, par exemple, ça n'a pas trop de sens dans la mesure où, comme c'est plus des morceaux dont il se souvient, ça part un peu dans tous les sens, il y a du psyché au milieu,
c'est vrai que quand tu vois le...
Quelle est la cohérence du truc ? Et il n'y a personne qui se pose la question, tiens, c'est quand même bizarre, tous ces morceaux, c'est quoi le lien, quoi ?
Moi, j'ai connu les Beatles avec Across the Universe, qui est un film de Julie Taylor ou Taymor, je ne sais plus, qui est un fantasme, qui me fait un peu penser à Rocketman, mais dans le sens encore plus fantasme, et c'est une comédie musicale, qui va suivre un personnage masculin qui s'appelle Jude et un personnage féminin qui s'appelle Lucy, qui va donc du coup montrer Jude qui va quitter les mines pour aller vivre en Amérique, connaître le succès, revenir alors que la fille l'attend et compagnie. Et donc du coup, ça va suivre chronologiquement toute l'histoire des Beatles, juste en racontant l'histoire de ces deux personnages qui vont aller découvrir la guerre, qui vont donc du coup aller chanter She's So Heavy en parlant de la statue, qui parle de plein de choses. Et du coup, voilà, c'est une vraie comédie musicale avec plein de psychédélisme partout. Le film commence très mignon, il fonce dans la drogue, il part partout. Et ce film-là te fait comprendre les Beatles, te fait comprendre pourquoi ça a un impact, parce que tout est imagé, parce que tout parle là-dessus. Si tu l'as pas vu, je te le montre dès que tu peux. Et voilà, moi c'était peut-être un peu ça qui me manquait, c'était le côté, à la grande limite j'aurais bien aimé, il y a un moment où il tourne autour d'un tourniquet et il y a les titres autour de lui, il y a le moment où ils sont dans une bouche du métro et il y a le Hello Goodbye qui représente un train, enfin ce qui sont une bagnole où ils sont dans un tunnel qui passe et qui les percute et c'est juste le titre Hello Goodbye en très gros, taille de
bus. Oui, c'est au moment, c'est en fait les titres apparaissent au fur et à mesure que l'inspiration lui vient, que les souvenirs lui reviennent, oui.
Mais donc il y a du psychédélisme un petit peu, et bordel, ça aurait pu exploiter quoi, ça aurait...
Ouais mais sans drogue.
Ouais voilà, mais ça aurait été bien qu'il l'exploite un petit peu plus, que le mec fasse des rêves par exemple, où justement il est en train de planer et qu'il se réveille en disant ok d'accord, ce titre là, j'irai pour Strawberry Fields par exemple, où finalement il va juste devant la rue et ah tiens Strawberry Fields c'est vrai, c'est dommage. Voilà, j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin et qu'on comprenne l'impact sans que lui ne le capte en fait, juste en mode ah, putain c'est vrai que ce morceau m'avait évoqué ça.
Je crois que tu avais beaucoup trop d'ambition pour ce film.
Peut-être, ouais. Mais peut-être après parce que j'aime beaucoup la personne qui était aux manettes et que Danny Boyle, quand il veut faire quelque chose de très poussé, il le fait. Et là, il s'est un peu reposé sur ses lauriers alors qu'il avait un scénar et des dialogues en or. Les dialogues sont très très bons, ce qui fait qu'on s'accroche à tous les personnages, quoi qu'ils disent, quoi.
Ah, je me demande si ça aurait pas été un peu trop une couche de psyché en plus. C'est un film déjà très long, il y a déjà une histoire d'amour dedans, il y a déjà une grosse critique du gros merchandising et de la condition d'artiste difficile, parce que quand tu es un artiste de merde, ben la vie est dure. Surtout face à l'entourage qui n'écoute même plus ce que tu chantes, même si tu as leur chante les petites billes. Déjà, il y a déjà à manger avec ça, quoi. En plus, vouloir un film sur les Beatles alors que les Beatles ne sont pas là, il y a un Beatles qui apparaît. Il y a un Beatles qui apparaît, qui a une ligne de dialogue. Voilà. Je ne vous dis pas lequel.
Ouais, c'est clair, il ne faut pas dire lequel.
It's been a hard day's night. Une émission bien remplie. Il est temps d'aller se coucher. Ou d'écouter l'épisode suivant, si vous écoutez la liste des épisodes. Vous avez tellement raison. C'était Certains les Machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour nous soutenir, abonnez-vous. Là, c'est pas mal. Et puis, partagez l'émission, parlez-en autour de vous, à vos amis que vous rencontrez dans la vraie vie, ou bien vos amis virtuels sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, devenons amis virtuels sur Twitter, Facebook, Instagram, @clackpodcast, C-L-A-A-C podcast. Et peut-être serons-nous amis dans la vraie vie. Qui sait ?
Qui sait ?
Et nous irons tous vivre dans un sous-marin jaune. On se retrouve très bientôt pour un nouveau film. On vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bisous.
Bisous, bisous, bisous. Bon, et donc du coup, nous allons nous quitter. Mais si je te dis au revoir, tu me dis bonjour.
Bonjour.
Au revoir.